Vous écoutez, on lit pour vous.
Dans les bois, des routes. Un texte de Marc-André Posé, paru en avril 2024 dans l'Actualité. La forêt québécoise est sillonnée en tous sens par des milliers de kilomètres de chemins forestiers. Essentielle à la récolte du bois, prisée par des amateurs d'activités récréo-touristiques, mais aussi néfastes pour la faune et la flore. Ils doivent être mieux gérés par l'État, disent les experts. Assis près d'un lac, dans la forêt du nord de la Naudière, dans la Zec Lavigne, je fixe le scintillement hypnotique de mon feu de camp. L'odeur du pain qui y cuit alimente encore plus ma faim déjà bien présente, celle que seul un voyage à pied ou en canot peut susciter. Le crépuscule rampe entre les arbres jusqu'à la surface du plan d'eau. L'appel obsédant d'un huard remplit l'air. Les jaseurs boréaux virevoltent au-dessus du lac pendant que la bouilloire sur le feu ajoute son sifflement au concert de la forêt pour ses derniers moments de clarté. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Un convoi de motocross et autres VTT passe sur un chemin de gravier à proximité, soulevant un nuage de poussière jusqu'au sommet des arbres et nous réduisant au silence mon fils et moi. Il faudra plusieurs minutes pour que la forêt, elle aussi, reprenne ses esprits. Même quand vous pensez être au fond des bois, vous ne l'êtes pas toujours. Souvent, un chemin forestier passe tout près. Il y en a pour plus d'un demi-million de kilomètres dans la forêt québécoise, de quoi faire 14 fois le tour de la Terre. Et il s'accumule. Chaque année, il s'en rajoute 5500 kilomètres, selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. À quoi sert tout ce dédale? D'abord, les chemins sont ouverts par des entreprises forestières afin d'accéder aux bois à récolter. Par la suite, ils sont parcourus par une myriade d'usagers comme les communautés autochtones, les chasseurs et pêcheurs, les sociétés minières, les trappeurs, les clients des ZEC pour voiries et réserves fauniques, les motoneigistes et les amateurs de VTT, les cueilleurs de champignons sauvages et de bleuets, mais aussi les producteurs illicites de cannabis et les braconniers. La pression sur les écosystèmes qu'exerce cette gigantesque empreinte humaine a des conséquences sur plusieurs plans, observent les scientifiques, dont Sylvain Jutras, ingénieur forestier spécialisé en hydrologie et professeur au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. La grande majorité des chemins ne sont pas entretenus, malgré leur utilisation intensive, affirme-t-il, et 35% sont carrément laissés à l'abandon, sans renaturalisation. L'automne dernier, mon fils Vincent et moi avons sillonné des forêts du nord des régions des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie, sur certains de ces chemins multi-usages, comme les appelle le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, afin d'aller constater sur le terrain leurs effets sur l'environnement et les communautés avoisinantes. Lorsqu'il accorde des droits de coupe sur des terres publiques aux entreprises forestières, l'État paie pour l'ouverture de chemins d'accès dans le cadre du programme de remboursement des coûts pour des activités d'aménagement forestier sur des chemins multi-usages, PRCCM, qui deviennent accessibles à différentes personnes. Il ne relève pas du ministère des Transports, contrairement au réseau routier québécois. Au fil du temps, il arrive que des usagers améliorent une section, réparent un ponceau, enlèvent des arbres tombés sur la voie, bref, qu'ils entretiennent les chemins. Comme il n'y a pas de politique claire, c'est un peu à tout le monde et personne de s'en occuper, dit Henri Jacob, militant écologiste et cofondateur de l'organisme Action Boréale, avec entre autres Richard Desjardins. un certain nombre de chemins forestiers au Québec sont de type chemin d'hiver. Ces passages temporaires, aménagés en dégageant la neige au sol ou sur des surfaces gelées de façon à laisser passer la machinerie légère, disparaissent au printemps, laissant pour l'essentiel une zone déboisée. La voirie forestière, elle, ressemble plus à un chantier. Un bulldozer découpe la forêt en y faisant une profonde entaille, assez large pour laisser circuler de gros camions de bio, en plus des zones d'empilement et de chargement. Des cortèges de camions bennes piétinent ensuite l'entaille, compactent le sol et l'enterrent sous des tonnes de gravier mêlés de sable. Ces autoroutes des bois sont flanquées de fossés et de ponceaux pour détourner les eaux. Les industriels planifie les chemins selon leurs besoins ponctuels et locaux, précise Osvaldo Valeria, ingénieur forestier et titulaire de la chaire institutionnelle UQATUQAM en aménagement forestier durable. Quand, quelques décennies plus tard, une entreprise forestière veut revenir exploiter une zone, elle construit de nouveaux chemins. Car, elle a peu d'informations sur l'état de ceux qu'elle a utilisés par le passé. En fait, c'est pire que cela. On ne sait même pas s'ils existent encore, ajoute-t-il. L'État tient certes une base de données sur les réseaux de transport terrestre, y compris les chemins multi-usages, mais comme l'entretien de ces derniers n'est pas de sa responsabilité, les informations sur leur état ne sont pas nécessairement à jour. Pour Osvaldo Valeria, lorsque les chemins servent à la société sur une longue période, que ce soit pour les activités forestières ou le tourisme, ils constituent des actifs. Mais pour ça, il faut qu'ils soient entretenus, insiste-t-il. Quand ils sont abandonnés, ils n'offrent aucune contribution et leur dégradation amplifie les impacts négatifs sur les écosystèmes. Une semaine après notre campement dans la ZEC La Vigne, mon fils et moi parcourons la réserve faunique Rouge Matawan, juste à côté. Nous circulons en véhicule à quatre roues motrices sur la route 5, en gravier et sable, entre Saint-Michel-des-Saints et la partie nord du parc national du Mont-Tremblant. Le chemin serpente dans un corridor d'épinettes entre lesquelles nous apercevons régulièrement le bleu d'un lac. Vincent, au volant, a les yeux fixés sur la route. Des panneaux signalent la présence de camions-remorques chargés de bio. C'est un cortège incessant qui roule à l'année, nous a prévenu la préposée à l'accueil de la réserve. Après mon expérience avec les VTT dans la ZEC La Vigne, mon regard est attiré par les innombrables chemins qui débouche sur notre route, signe de l'exploitation forestière qui s'est étalée sur près d'un siècle dans la région. Au fil des 24 premiers kilomètres, nous croisons pas moins de 41 chemins de traverse, dont la majorité semble abandonnée. On trouve de tout. Des routes de gravier aux pistes de VTT en passant par des chemins de terre. J'indique à Vincent de s'engager sur un de ces chemins. Contournant les roches et les nids de poules, nous roulons avec précaution sur la piste, dont la surface ondulée rappelle une planche à laver. Après quelques dizaines de mètres, le mur d'épinettes laisse la place à des sections rasées où s'empilent pêle-mêle des troncs d'arbres abattus qui n'ont pas été ramassés. D'autres chemins partent dans tous les sens comme les tentacules d'une pieuvre. Vous écoutez « Dans les bois des routes », un texte de Marc-André Posé, paru en avril 2024 dans l'Actualité. En 2005, un article scientifique rédigé par Laurence Bourgeois, Daniel Nichat et Gaëtan Boisseau du département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal avait ouvert les yeux de la communauté scientifique. L'étude concluait que les routes forestières menaient à une utilisation trop intensive du territoire, comme l'exploitation de la faune, le braconnage, l'exploitation minière et hydroélectrique, l'augmentation de la construction destinée à la villégiature et la très forte présence de véhicules hors route. Daniel Nisha affirme que les conclusions de l'étude, même si elles datent de 20 ans, sont encore très pertinentes. La situation a même empiré, croient Sylvain Jutras, Osvaldo Valeria et Henri Jacob. De nombreux chercheurs et organismes soulignent le fait que le réseau routier est responsable des effets négatifs sur l'intégrité biotique des écosystèmes terrestres et aquatiques, dont le morcellement du territoire, la destruction des habitats, la modification du comportement animal, l'altération physique et chimique de l'environnement, la propagation d'espèces exotiques et la pression humaine toujours croissante. Il a été démontré que les chemins favorisent les prédateurs, comme l'ours et le loup, mais aussi l'humain. La gestion déficiente des chemins forestiers a des conséquences beaucoup plus graves que celles qu'engendre une coupe totale, dit Osvaldo Valeria. Notamment à cause de leur superficie, des matériaux pour les construire et de la compaction du sol par la machinerie et le transport, ce qui détruit les possibilités de régénération. Autrement dit, alors que les effets d'une coupe sont temporaires, ceux d'un chemin sont permanents. Lorsqu'ils ne sont pas entretenus, explique pour sa part l'hydrologue forestier Sylvain Jutras, de tels chemins deviennent une menace directe pour la qualité de l'eau en raison de leur érosion et du lessivage du remblai des ponceaux. Ces défaillances entraînent graduellement des tonnes de sédiments dans les milieux aquatiques. Ces chemins sont notamment une aubaine pour les castors qui bloquent des ponceaux. On en a aperçu les effets après quelques kilomètres sur une route de gravier très accidentée dans la Zec Collin, près de Saint-Michel-des-Saints. Lorsque nous sommes arrivés au ponceau bouché, l'eau passait par-dessus le chemin, créant de l'érosion et emportant des contaminants dans le cours d'eau en aval. Les études montrent que les castors ont tendance à s'installer près des chemins forestiers, expliquera plus tard le professeur Valeria. Ils tirent profit de la présence des ponceaux, qu'ils bloquent facilement pour aménager leur territoire. Saint-Michel-des-Saints, une municipalité de 2365 résidents située dans le nord de la Naudière, a une longue histoire avec la forêt. Après que l'industrie forestière eut été le pilier économique pendant plusieurs décennies, l'industrie récréo-touristique a pris de l'ampleur, notamment depuis l'ouverture de l'auberge du lac Taureau en 1999 et le développement de zones de villégiature. Le maire, Régent Gouin, reconnaît que les loisirs motorisés, qui bénéficient de la présence des chemins forestiers, contribuent à la santé économique de la région. Mais les gens qui viennent ici veulent voir la nature, pas nécessairement un dédale de chemins forestiers, tient-il à préciser. Il y aurait par ailleurs de l'éducation à faire auprès de nombreux amateurs de véhicules récréatifs, ajoute le maire Gouin. Surtout auprès de la nouvelle vague d'utilisateurs qui ne cherchent qu'à faire de la vitesse, sortir des sentiers officiels. Ils dérangent la faune et saccagent l'environnement en passant. Justement, quand nous circulions dans la Zec La Vigne, Vincent ralentissait systématiquement à l'approche des courbes. Cette précaution nous a fait éviter le pire lorsqu'un motocross a débouché d'une courbe à toute allure et a été déporté sur notre côté du chemin. Au nord de Saint-Michel-des-Saints, tout juste après la scierie Saint-Michel, la route de gravier qui relie la ville à la communauté atikamekw de Manawan, le chemin M650, est un exemple de route forestière représentant un actif pour la société. Le chemin Manawan est devenu, dès sa construction en 1972, le principal itinéraire pour relier Manawan au reste du Québec. C'est bien plus court que de passer par Wemotassi, la communauté atikamekw voisine, en Mauricie. En vertu d'un décret gouvernemental adopté en 2008, La responsabilité des travaux sur ce chemin multi-usage a été confiée au ministère des Transports plutôt qu'aux usagers, comme c'est aussi le cas pour 8 autres chemins au Québec, dont ceux qui relient le village de Parent aux villes de Latuc et de Mont-Laurier. Pour l'avoir emprunté plusieurs fois, je sais que, selon les saisons et les intempéries, il peut être très difficile, voire dangereux, d'y circuler, surtout pour les services d'urgence médicaux. Il m'est arrivé de parcourir ces 88 kilomètres en ne croisant que des transporteurs de bois roulant à toute vitesse, alors qu'un verglas avait transformé la route en patinoire. L'état du chemin et la circulation intense des camions, cela met les gens de la communauté à risque, dit le chef de Manawan, Sipi Flamand. Nous avons des discussions avec le gouvernement pour que ça change, mais il ne nous écoute pas. Le chef de la communauté réclame un chemin plus sécuritaire, avec une chaussée qui soulève moins de poussière, laquelle brouille la visibilité et un partage plus sécuritaire de la route entre les camions et les autres véhicules. Le ministère et les compagnies forestières veulent garder la route telle qu'elle, parce que le fait qu'elle soit classée pour l'industrie forestière permet aux camions-remorques de transporter des charges de bois plus grosses. Au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, un porte-parole explique qu'un comité, incluant notamment son ministère, celui des Transports et celui de la Sécurité publique, la communauté de Manawan ainsi que la MRC de Matawini, a été mis sur pied au cours de la dernière année. Et qu'un plan d'action coordonné avec des échéanciers précis a été adopté à l'été 2023. Mais les chemins forestiers, c'est également une atteinte à l'intégrité de Nitashkinan, le territoire, dit Alice Chakwan Bondu, intervenante communautaire pour le Conseil de la Nation Atikamekw et guérisseuse traditionnelle. L'écosystème englobe aussi les humains qui y vivent. Mon père m'a enseigné que la forêt, c'est notre histoire et notre identité. Elle est notre garde-manger et notre pharmacie. Elle est ce que je suis. Vous écoutez « Dans les bois des routes », un texte de Marc-André Posé, paru en avril 2024 dans « L'actualité ». Les feux de forêt de l'été 2023 ont convaincu Osvaldo Valeria, encore davantage s'il le fallait, de l'importance que Québec tienne une base de données à jour des chemins et de leur état. Si les routes principales sont fermées, on n'a aucun moyen de savoir comment évacuer un village forestier. Il n'y a aucun plan d'urgence, insiste le professeur. Selon lui, on possède le savoir nécessaire pour que Québec gère mieux la création de nouveaux sentiers forestiers. Nous avons les connaissances et des modèles de planification qui permettraient d'être beaucoup plus efficaces, plus rentables et de causer moins de dommages à l'environnement. Par exemple, dit-il. Quand un secteur forestier brûle, des données permettent de connaître son potentiel de régénération en fonction de sa composition et de la qualité du sol. Avec une bonne planification, explique le professeur, nous pourrions construire des chemins et concentrer la récupération du bois dans les secteurs ayant peu de potentiel régénératif et laisser la forêt se régénérer naturellement, là où il y a des espèces adaptées aux feux de forêt et où il n'y a pas de problème dans la couche organique. En 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts annonçait être en réflexion pour établir une politique de gestion des chemins forestiers, laquelle comprendrait notamment un plan de fermeture et de renaturalisation. Le porte-parole du ministère assure que des travaux sont toujours en cours. Il faut que le gouvernement planifie la construction des chemins, les intègre à une gestion écosystémique globale, les renaturalise après leur utilisation et crée un organisme de surveillance indépendant, comme cela se fait ailleurs au Canada et en Europe, pour ainsi respecter ses propres normes de développement durable, dit Daniel Nisha, un des co-auteurs de l'étude de 2005. Après ces pérégrinations sur les chemins de traverse, j'avais passé quelques jours dans notre forêt familiale, à cheval sur l'Anaudière et la Mauricie. Pour s'y rendre, il faut marcher près de 2 kilomètres sur une piste rudimentaire dans une forêt privée qui n'a pas vu d'exploitation forestière depuis 65 ans. La nature a repris en partie ses droits pour ne laisser qu'un étroit sentier passant entre les arbres. À mi-chemin, je débouche dans une tourbière. La trouée dans la canopée indique qu'il y a déjà eu un chemin à cet endroit, mais la végétation l'a depuis effacée. C'était fort probablement un chemin d'hiver, sans infrastructure industrielle, m'expliquera plus tard Sylvain Jutras. Cet ancien chemin a été créé à une époque où on exploitait la forêt pendant les mois d'hiver avec des chevaux ou de la machinerie légère, comme cela continue de se faire dans les zones de coupe sélective. Des centaines d'exploitations rentables montrent que c'est toujours possible, et de la petite machinerie à faible portance, ça existe encore, dit l'ingénieur forestier et hydrologue. Une fois la tourbière traversée, je pénètre dans une belle forêt qui arrive à maturité par une piste me rappelant certains sentiers de portage. À notre vieux camp rustique, un couple de huards m'accueille par une longue complainte. Sur la berge, des traces fraîches révèlent qu'un orignal est passé ce matin. En m'asseyant près du lac, je me dis qu'ailleurs, dans une autre forêt, un sentier comme celui que je viens d'emprunter est en train de disparaître avec la construction d'un autre chemin industriel. Et qu'avec lui s'envolent 8 000 ans d'histoire. C'était « Dans les bois des routes », un texte de Marc-André Posé, paru en avril 2024 dans L'Actualité.
Trois raisons de lire, 5 dodo pour tout savoir sur les dragons. Un texte de Joséanne Paradis, paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Le genre de fake news qu'on veut. On le savait talentueux depuis plusieurs années, mais avec la petite Russie, véritable plongée dans un pan méconnu de l'histoire du Québec, le bédéiste Francis Desharnais a confirmé sa place parmi les grands. Plusieurs se sont également empressés de mettre la main sur son irrésistible documentaire « Claude Gauvreau, l'art vraiment bizarre expliqué aux enfants, 2023 », question que la génération future entende parler de l'exploréen dès son enfance. Mais cette fois, avec 5 dodo pour tout savoir sur les dragons, à paraître au début octobre, Francis Desharnais délaisse l'illustration pour se concentrer sur le texte. Un texte qui nous explique, avec tous les détails nécessaires, le béaba des dragons. Car, bien entendu, tous les enfants en veulent un de compagnie. Un pour le côté loufoque de ce faux documentaire. Les faux documentaires, on adore. Tout d'abord, c'est qu'ils laissent place à une imagination débordante. Ensuite, c'est qu'ils plongent dans la culture générale forgée par les contes traditionnels, les histoires devenues classiques, les films récents et les légendes entretenues pour en tirer une matière de base bien solide. Et finalement, c'est qu'ils en ajoutent une couche, en guise de pur divertissement, avec des détails aussi abracadabrants qu'intelligents. Par exemple, on découvre ici que les dragons ont 6 reins. Cet impressionnant nombre de reins lui sert à produire les fameuses pierres. Les pierres aux reins sont habituellement fort désagréables pour un être humain, mais elles sont essentielles à la production de feu chez le dragon. On apprend aussi qu'il est bon de rassasier son dragon avec de l'essence sans plomb et de le nourrir avec une généreuse portion de charbon matin et soir. Si cela n'est pas très bon pour l'environnement, il y a de l'espoir pour voir apparaître des bouchers nouveaux genres et éco-responsables, car des scientifiques ont envoyé une fusée sur le soleil pour en ramener quelques pelletées. Oh, et la bonne nouvelle, c'est que d'autres faux documentaires du genre sont attendus, signés par de nouveaux duos. 5 dodos pour tout savoir sur le Père Noël, 5 dodos pour tout savoir sur les licornes et 5 dodos pour tout savoir sur les fées. 2 pour la formule en nombre de dodos. Ce que ce livre propose est une formule toute simple. En 5 dodos seulement, ce qui donne même congé aux petits et aux parents la fin de semaine, et à raison de 8 pages hautes en couleur chaque soir, ce documentaire sera lu et assimilé afin que le lecteur puisse clamer haut et fort qu'il connaît maintenant tout sur les dragons, de leur naissance à leurs origines, de leur alimentation à leur hygiène. C'est pourquoi les 5 parties, en passant, rien ne garantit cependant que l'enfant, voire l'adulte, ne réclamera pas la lecture entière du dit documentaire en une seule soirée, vont ainsi. Comment choisir son dragon? Comment s'occuper de son dragon? Bien éduquer son dragon? Se déplacer avec son dragon? Et les différents âges du dragon? 3. Pour profiter des illustrations. Il y avait quelque temps que Phil n'avait pas illustré un album. C'est que l'illustrateur, qui en dehors du milieu littéraire jeunesse porte le nom de Philippe Arsenault-Bussière, a mis ces dernières années son talent au service de la boîte de production 10e Avenue Animation, producteur des films d'animation Katak, Le Brave Beluga, La Guerre des Tuques 3D et La Légende de Serila. Il y travaille à titre de directeur artistique et d'illustrateur. Dans cet ouvrage documentaire sur les dragons, on voit toute la créativité dont il peut faire preuve puisque c'est plus d'une 50aine de dragons qu'il nous offre, tous aussi colorés et attachants les uns que les autres, surtout les bébés, et ce, même si certains d'entre eux se font ramonner les voies carbonisatoires ou sont de la taille adéquate pour entrer dans le sac à main d'une star. C'était 3 raisons de lire, 5 dodos pour tout savoir sur les dragons. Un texte de Joséanne Paradis paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.